des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, nous poursuivons notre exploration de la rentrée littéraire avec une nouvelle rencontre entre deux romancières qui nous offrent deux des fictions les plus osées et les plus puissantes de la rentrée. Deux textes qui nous emmènent très loin, l'un dans une Afrique futuriste, magique et prospère, l'autre dans une banquise sans âge, dans un Groenland éternel, du moins voudrait-on le croire. Deux textes qui, en pratiquant le déplacement géographique, le déplacement temporel, s'autorisent à mieux poser, peut-être grâce à la fiction, des questions qui, elles, sont très actuelles, l'écologie, les migrations, l'identité, le métissage, la place de la femme dans la société. Décaler le regard est-il une façon de mieux voir? C'est la question que nous poserons en voyageant à travers leurs livres à Léonora Miano, qui publie Rouge Impératrice chez Grasset. Bonjour Léonora Miano.
Bonjour.
Et à Bérangère Cournu, qui publie De pierre et d'os aux éditions du Tripode. Bonjour Bérangère Cournu.
Bonjour.
Bienvenue à toutes les deux dans cette émission. Léonora Miano, je rappelle que vous avez obtenu le prix Goncourt des lycéens pour Contour du jour qui vient en 2006. Vous me corrigez si je me trompe dans les dates.
Non, c'était bien en 2006.
Voilà. Le prix féminin en 2013 pour La saison de l'ombre. Et je rappelle que vous êtes né en 1973 au Cameroun et que vous attachez finement, romanesquement, à explorer les liens entre l'Afrique et l'Europe. Et c'est le cas encore avec le très ambitieux Rouge Impératrice qui nous transporte dès les premières pages dans le futur, dans un continent qui ne s'appelle plus l'Afrique, mais le Catiopa, ou Catiopa, le ou pas, où il n'y a pas de...
On dit Catiopa.
On dit Catiopa, j'enlève le déterminant. Continent prospère vers lequel affluent désormais des réfugiés de la vieille Europe. Le livre commence par le regard d'un homme, Ilunga, chef d'État de Catiopa, sur une femme dite rouge, d'une grande beauté, qu'il aperçoit alors qu'incognito il se promène dans la rue pour tenter de voir et d'écouter ce que pense son peuple. Il aperçoit sur la terrasse d'une maison en ruine au bord de l'océan où habitent les sinistrés. Alors ce sont des descendants de Foulassi,
oui,
à savoir des Français.
Exact.
Parce qu'en fait, il y a plein de mots pris dans plusieurs langues africaines.
Absolument.
Avec un glossaire à la fin.
Et seulement parce que j'ai cédé à mon éditeur, je voulais pas
mettre de
glossaire.
Ah ouais, je comprends.
Mais j'aime Olivier Nora d'amour, donc je lui ai cédé.
D'accord, il pensait lui peut-être au lecteur aussi.
Oui, voilà.
Parce qu'au début,
voilà. Il pense souvent plus que moi au lecteur.
Alors, les Foulassi sont des Français qui ont migré vers l'Afrique pour trouver une vie meilleure et pour retrouver encore un peu du prestige qu'ils ont perdu en Europe.
Absolument.
En fait, c'est une sorte de rêve de néocolonialisme. En tout cas, c'est comme ça qu'ils sont perçus.
Oui, et puis c'est la manière pour eux aussi de préserver leur identité,
ouais,
en vivant comme ça en vase clos, ouais, mais en Afrique, parce que vivre en vase clos en Europe, c'est plus possible.
C'est plus possible, exactement. Alors, pendant près de 600 pages, porté par une langue extrêmement sensuelle, c'est un livre très sensuel, très physique.
Ah, mais je l'ai écrit pour moi, donc...
Très belle scène d'amour. Donc, chatoyant de mots africains, dont la traduction donc, est donnée en Foulassi, en français.
Ah, en Foulassi, oui.
Et vous nous donnez à voir, à entendre, à sentir Catiopa, ce continent, donc à travers ses croyances magiques, ses tensions politiques aussi, son architecture, les vêtements qu'on y porte, à travers aussi une histoire d'amour entre Ilunga et Boya, qui est la femme, mais la femme rouge.
Ouais.
On va en parler. Et puis à travers les destinées politiques de ce continent, donc en proie à de vives tensions, car tout n'est pas rose.
Ah ben, ce ne serait pas la vie si tout
Exactement.
Était rose.
Ce ne serait pas un roman. Car certains en sont venus à penser à Catiopa que ces migrants venus de Pongo, l'Europe, sont devenus un problème pour l'unité de Catiopa. Léonora Miano, il y a depuis très longtemps une tradition chez les intellectuels, chez les romanciers, chez les philosophes, depuis au moins l'Utopie de Thomas More, qui consiste à inventer un pays qui n'existe pas, c'est l'étymologie d'utopie, ou topos, le lieu qui n'est pas, pour mieux parler de notre monde. Rouge Impératrice s'inscrit-il dans cette tradition utopique ?
Ben non, s'il s'agit de parler d'un pays qui n'existe pas, Catiopa existe. C'est la région du monde que nous appelons Afrique.
Mais
il y a des gens qui l'ont nommé autrement et qui l'appellent Catiopa.
Mais on est dans un temps qui n'est pas le nôtre.
Alors, le temps n'est pas encore le nôtre, mais l'espace, si. Et il n'est pas si différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que pour autant c'est une utopie? Moi, je ne sais pas si c'est une utopie. Je le dirais pas comme ça. Pour moi, c'était vraiment une manière d'essayer de renverser un petit peu les choses pour me permettre de réfléchir effectivement à des situations très actuelles. D'obliger un peu les gens à prendre leur responsabilité.
Ouais. Voilà. Et donc, en déplaçant l'histoire,
en déplaçant l'histoire,
en 2114, c'est ça.
En 2124, ouais. En donnant du pouvoir, donc des responsabilités aux gens. Ouais. Quand on a du pouvoir, est-ce qu'on aime les autres? Est-ce qu'on se reconnaît dans tous les autres? Est-ce qu'on les accepte? Est-ce qu'on n'a pas envie de les écraser un peu? Quand on a du pouvoir, tout simplement, est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'on fait de meilleurs choix que les choix de ceux qu'on conteste aujourd'hui?
Mais pour ça, il fallait pas prendre ce que vous aviez sous les yeux. Il fallait imaginer Qatiopa qui existe, mais un petit peu différente de l'image, en tout cas, qu'on peut avoir de l'Afrique contemporaine.
Moi, j'aurais pu le faire dans une Afrique contemporaine. Simplement, tout départ, mon projet était même pas d'écrire une chose aussi politique. Je voulais écrire une histoire d'amour. Je pense que ça se voit un peu que je voulais écrire une histoire d'amour.
Elle reste là. Elle reste là.
Je voulais vraiment écrire une histoire d'amour qui marche. Un conte de fées un peu pour les presque quinquas. Les gens de mon âge. Mais après, il a fallu situer cette histoire. Et je voulais pas la situer dans un environnement que j'avais déjà exploré dans mes livres. Donc pas dans une Afrique subsaharienne contemporaine, pas dans une Afrique subsaharienne précoloniale, parce que tout ça j'ai déjà fait, et non plus dans la France d'aujourd'hui, parce que j'ai aussi déjà fait.
Donc c'est très égoïste au fond. Voilà.
C'est totalement auto-centré. c'est le désir de l'auteur de faire un truc qu'elle n'avait pas encore fait.
Ça c'est très bien. Ouais. Même constance romanesque chez vous, Bérangère Cournu, puisque après un premier roman intitulé « Née contente à Oraibi », où vous vous intéressiez à une culture lointaine, les Hopi, donc peuple amérindien du Nouveau Mexique, vous publiez un nouveau roman dont le héros, ou plutôt ici l'héroïne, appartient aussi à un peuple lointain, situé cette fois du côté des pôles, enfin la lisière des pôles, les Inuits du Groenland. Et dans cette terre de glace et d'eau, aux nuances de bleu et de blanc infinis, on découvre donc Uxarilik, Uxuralik, qui veut dire animal blanc.
Ça signifie animal blanc. Et
si mes connaissances en inuit,
non, en fait, ça désigne un animal blanc et qui du coup peut désigner dans la langue, ça veut dire animal blanc et ça peut désigner aussi bien l'ours que l'hermine, ce qui est intéressant pour un personnage.
Alors, Uxuralik vient d'être coupé quand le livre commence de sa famille par une fracture dans la banquise, donc elle est séparée, et elle va devoir survivre, entreprendre un voyage dans des conditions extrêmement difficiles, au milieu des hommes, au milieu des animaux, au milieu des esprits aussi. Il n'y a pas de lieu ni de date précise, on parlait de Qatiopa, alors Qatiopa existe géographiquement, mais vous avez déplacé dans le temps Léonora Miano.
Absolument.
Là, on ne sait pas vraiment où on sait qu'on est en territoire inuit, on peut regarder un peu où est le Groenland, mais on ne sait pas non plus à quelle époque. C'est-à-dire qu'on n'est pas en 2124, j'ai mis 2114, peu importe.
Oui, c'est presque ça.
Pardonnez ces 10 ans, ce delta de 10 ans. Et on est perdu, comme elle, comme votre héroïne, avant de retrouver notre chemin. Chemin qu'on apprend à parcourir à travers les techniques de chasse, car il faut se nourrir, coûte que coûte, et vous nous racontez ça, Bérangère Cournu, à travers la fréquentation des esprits. Il est beaucoup de questions de magie, de chamanisme dans De Pierre et d'Os. D'ailleurs, il est beaucoup question de magie aussi dans Rouge Impératrice.
Oui.
À travers la présence du corps aussi, et du corps féminin, encore quelque chose qui vous réunit. Il est question de donner la vie dans un paysage qui peut offrir facilement la mort. Et dans une langue réduite, sans mauvais jeu de mots, à l'os et aux nerfs, vous nous donnez à voir et à sentir aussi, Bérangère Cournu, les batailles de chiens de traîneau, à sentir le goût de la viande de phoque séchée sur la langue, le parfum de l'huile qui brûle dans les lampes de pierre, l'odeur aussi de cette cuve à urine qui sert à tanner les peaux, toutes les nuances, je le disais, de l'eau, de la glace, l'haleine des chiens, le froid et cette haleine qui réchauffe parfois, le bruit des hommes qui partent chasser en kayak et des veillées où les tambours résonnent. Pourquoi avoir choisi, vous aussi, une période qui n'est pas forcément la nôtre, en tout cas qui n'est pas donnée, qui n'est pas spécifiée, comme si on était non pas dans le futur ou dans le passé, mais carrément hors du temps?
Alors ça, je dois dire que c'est une manie, tout simplement. C'est-à-dire que, en fait, tous les quelques livres que j'ai écrits avant, je se situent toujours dans ce hors-temps. Alors la raison pour laquelle je fais ça, pas très très claire, si ce n'est que je crois que j'ai toujours un peu envie d'offrir des personnages ou des histoires qui peuvent avoir... C'est un peu prétentieux de le dire comme ça, mais genre une portée universelle. Ma volonté, c'est de m'éloigner le plus possible de l'anecdotique. Et donc, ce hors-temps est pour ça très pratique. Et puis, je crois aussi qu'au départ, je me destinais pas forcément à devenir romancière. C'est pas comme ça que j'ai un rapport à l'écriture peut-être plus charnel, plus direct, qui me rapproche peut-être plus de la poésie.
Les romanciers sont pas un rapport charnel à l'écriture.
Ce que je veux dire, c'est qu'en termes, par exemple, de narration, je me sentais pas en devoir de raconter une histoire. Je pensais absolument jamais au scénario avant d'écrire un livre. Ce qui est presque toujours pas le cas aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est que j'aime énormément Henri Michaud. Enfin, j'ai un rapport peut-être plus poétique à la langue, à l'écriture en général.
Bienvenue à toutes les deux. J'ai beaucoup aimé vos textes, vos romans qui me semblent se répondre. Hein. Je l'ai un petit peu indiqué par un certain nombre d'échos. D'abord, la volonté de faire semblant, de nier certains problèmes actuels pour mieux, en fait, les traiter. Chez vous, Léonora Miano, donc l'Afrique n'est pas divisée et pauvre comme parfois. On la voit, mais prospère et unifiée, même s'il y a des tensions.
Oui, il y a des tensions.
On n'y parle pas d'Africains qui partent vers l'Europe, c'est plutôt le contraire. Chez vous, Bérangère Cournu, on ne parle pas des problèmes de déculturation des Inuits, d'alcoolisme, de drogue, ou même de fonte des glaces. Mais on y parle d'une culture qui apparaît comme forte, indestructible même, de tradition bien ancrée, de banquise bien solide, sauf quand elle craque pour séparer votre héroïne de sa famille. En quoi c'était important pour vous, vous en avez un petit peu parlé, Léonora Miano, mais essayons de creuser un peu plus, de mettre à distance, donc en vous déplaçant, un état de fait réel, et grâce à la fiction, faire un petit pas de côté pour... je sais pas, est-ce que c'est pour mieux voir? Est-ce que c'est pour être plus libre?
Ça permet ni de mieux voir, ni forcément d'être plus libre, mais peut-être d'être plus fin, plus subtil dans la manière d'aborder les choses. Par exemple, je voulais travailler sur la question des minorités dans une société. Évidemment, j'aurais pu décrire les situations que nous connaissons déjà en Europe, mais il me semble que poser ces mêmes questions dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on est en situation de minorité, par exemple, et quand on est une minorité qui refuse de se reconnaître dans la majorité, quelles que soient les raisons, est-ce qu'on est légitime de demander à cette majorité quoi que ce soit? Est-ce que si tu estimes ne pas avoir partie liée avec des gens, est-ce que tu peux revendiquer? Moi, je pense que non. Je pense qu'il faut reconnaître qu'on fait partie d'un ensemble, qu'on est vraiment les uns les autres, qu'on est les uns les autres en fait, que l'autre est nous, pour pouvoir lui demander. Si tu reconnais pas ça, c'est difficile pour moi de revendiquer.
Et votre dispositif romanesque permettait mieux ça?
Permet aux minorités qui sont en France aujourd'hui d'accepter plus facilement ce questionnement de ma part.
Par cette fiction-là.
Par cette fiction, ouais. Parce que mes sinistrés leur tendent un miroir, mais ils ne le verront pas tout de suite. Ouais. Ça va venir doucement. Ça va venir doucement. Mais oui, évidemment, les questions qu'on pose aux sinistrés ici se posent à tout le monde. Même s'il y a cette petite différence que les sinistrés sont des descendants de colons un jour. Mais sur le plan strictement humain, toutes les questions qui sont posées sont valides et se posent à nous tous.
Comment peut-on être persan, au fond? On retrouve ça un peu, les instruments que toute cette génération du 18e, des Lumières, avait, avait utilisés, en fait.
Absolument. Voilà, ouais. Voilà donc les gens qui sont très très énervés aujourd'hui ici en France et qui vous disent, par exemple, je refuse de m'assimiler à des colons, comme s'il y avait une espèce d'ontologie coloniale, comme si on pouvait donc enfermer les gens pour toujours dans le colonialisme, alors même que voilà, on est né ici, qu'on n'a pas d'autres pays, qu'on n'a pas l'intention de partir. Est-ce que c'est vraiment un positionnement valide ou bien est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de se parler puisque voilà, on est le même peuple.
Et pour vous, Bérangère Cournu, de prendre voilà une réalité qui n'est pas celle, j'allais dire qu'on nous, j'utilise un mot trivial exprès, qu'on nous sert habituellement, c'est-à-dire en gros la catastrophe. Concernant les Inuits, la perte des traditions, la perte d'une culture, mais de montrer au contraire la culture telle qu'elle est forte.
Oui, parce que moi, j'ai été d'abord happée, en fait, par le côté fort, par le côté artistique. Au départ, ce sont des toutes petites sculptures inuites qui m'ont appelée vers la culture inuite. Et à partir de là, puisque je ne suis pas ethnologue, même si alors, je me suis énormément documentée pour écrire ce livre, bien entendu, mais je ne suis pas ethnologue. Et je m'inscris vraiment dans une démarche entièrement littéraire. Donc moi, voilà, mes outils, c'est les symboles, c'est dans les images. Alors, les histoires des Inuits, plus que les miennes. Et puis surtout, en fait, spontanément, je me pose pas cette question et je m'inscris, j'allais dire, dans une vision, alors on me le reprochera sans doute, hein, un peu idéale ou en tout cas archétypale. Alors, je revendiquerai le côté archétypal, je dirais, de cette vision des Inuits que je donne. Et évidemment, elle est une interprétation issue d'une culture dominante, bien sûr, dans le sens où...
Non, ne dites pas ça, parce que c'est pas ce qui ressort de la lecture de votre livre.
Je vous remercie beaucoup, parce vraiment, que c'est vraiment, ce que je voulais éviter, mais mes matériaux sont ceux-là.
Pourquoi vous parliez de culture dominante,
c'est-à-dire dans le sens où, moi, j'ai essayé de me documenter au maximum... Enfin, j'ai donné j'ai donné la priorité, moi, dans mon inspiration au récit inuit, fait par les Inuits eux-mêmes.
Oui, il y a des chants qui
Mais c'est vrai que globalement, qu'on écrive depuis la France ou le Canada à propos des Inuits, on a la grosse littérature scientifique, c'est celle des ethnologues, des scientifiques, des explorateurs.
Donc un regard extérieur.
Voilà, un regard extérieur. Société. Et la difficulté pour moi, et en même temps ce qui était extrêmement jouissif, c'était d'échapper à ça et d'essayer de donner une vision de l'intérieur, j'allais dire. Je me souviens, dans un livre de Michel Therrien, qui est une grande scientifique sur les Inuits, elle explique que pour les Inuits, il ne fait pas froid dans l'Arctique. Et ils ne vivent pas dans des conditions extrêmes. Ils vivent chez eux. Donc l'idée, c'était de se situer là-dedans. Ouais. Et puis après, d'un point de vue... Alors, à partir du moment où je me posais cette question, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, l'arrivée des Blancs, des personnes extérieures, est quand même relativement récente. Je dis que les Inuits sont les descendants d'un peuple de chasseurs depuis un millier d'années, mais enfin, globalement, c'est une culture qui a 4000 ans, qui évolue dans cet espace depuis 4000 ans. Et donc, ce qu'on vit aujourd'hui, j'allais dire, même si le mot est peut-être mal choisi, mais est relativement, en tout cas récent, presque anecdotique, et qu'il y a des siècles et des siècles avant d'un autre mode de vie.
Oui, mais après, est-ce qu'il y aura des siècles après?
Parce que c'est anecdotique. Je ne le sais pas, et je ne peux pas, et je ne peux pas, moi, me placer de ce point de vue-là, parce que je ne suis pas allée dans l'Arctique, donc je ne vais pas témoigner d'une chose que je n'ai pas vue, alors que, en tant qu'écrivaine, romancière, ce que j'ai absorbé, moi, comme outil symbolique et fictionnel, ce sont ceux d'une culture traditionnelle.
C'est intéressant que vous parliez de symboles, et vous avez prononcé un autre mot, et ça me semble vraiment convenir à vos deux livres, c'est le mot de conte, tout à l'heure. Et c'est vrai qu'ils ont la particularité, même s'il y a une dimension politique, Léonore Amiano, dans Rouge Impératrice, ils ont la particularité, et la force, je dirais, de pouvoir être lus comme des contes, notamment grâce à l'importance de la magie qui est présente dans vos deux textes. Boya est une magicienne.
Oui, en quelque sorte, on peut dire.
Déjà, elle est rouge, donc qu'est-ce que c'est que ce rouge? Est-ce que c'est symbolique ou est-ce, on va le découvrir avec le livre. Et puis votre héroïne, Ouxouralik, Bérangère Cournu, elle est constamment aussi dans le monde des esprits, elle est constamment confrontée à la magie. Quel combustible romanesque vous trouvez l'une et l'autre dans cette présence forte de la magie?
De la magie. Ouais.
Est-ce que, j'ai même précisé ma phrase, est-ce que le romancier, est-ce que l'écrivain, ce serait pas aussi celui qui rouvre la porte de la magie dans un monde qui a tendance à l'oublier à travers les chiffres, les datas, les données, les...
En tout cas, c'est quelqu'un qui doit ne pas s'interdire de le faire. Et ça m'est très facile parce que j'ai grandi dans un environnement où il y avait ces présences. C'est-à-dire que j'ai certes grandi dans une famille africaine un peu atypique parce qu'on n'y parlait que le français et qu'on regardait les films de John Ford ou les comédies musicales avec Sid Charisse et Fred Astaire. Et en même temps, dans cet univers-là, il y avait l'Afrique autour et puis il y avait les gens que nous fréquentions, les gens qui travaillaient à la maison, la famille élargie et donc toutes ces croyances. Donc vous vivez dans un monde qui est très rationnel parce qu'il est très occidentalisé et puis en même temps vous êtes constamment happé par l'autre monde où tout n'est que magie, esprit, sorcellerie et quand le moindre papillon de nuit se présente sous votre toit, il est porteur d'un message. Ouais. Et donc tout ça est normal et ça fait partie de ma réalité. Ouais. Et non seulement cela fait-il partie de ma réalité, mais ça participe de la vision du monde d'une grande majorité d'Africains encore aujourd'hui. Donc j'ai simplement glissé dans ce roman qui se veut celui d'une Afrique restituée à elle-même.
Oui, et ça, on reviendra voilà. sur l'expression, mais voilà, dans quelques minutes.
Toutes ces croyances qui lui ont un peu échappé, qui ont parfois été bridées. Oui. Et mal comprise.
Et pour vous, Bérangère Condu, parce que je suppose que vous n'avez pas vécu dans cette culture de magie. Enfin, encore que, je suppose, mais je fais peut-être erreur. En quoi c'était important, justement, de faire rentrer comme un fleuve cette magie, en fait, qui imprègne totalement les us et coutumes des Inuits, et puis les comportements, d'ailleurs, elle fait même l'amour avec les esprits.
Mais je pense que, enfin, comme Léonora, voilà, moi, ce qui me semble important, c'est que, enfin, moi, en tout cas, j'aime une littérature qui nous emmène vraiment ailleurs et qui nous sort de ce rapport au réel. Qui est plus quotidien. Donc, moi, c'est ce que je recherche en tant que lectrice. Donc, c'est vrai que c'est ce que j'ai aussi envie d'offrir en tant qu'écrivaine. Et puis, j'allais dire, c'est impossible de faire l'économie de la magie et du chamanisme si on s'intéresse aux Inuits. Et moi, ce qui résout cette question très vite pour moi quand j'ai commencé à imaginer ce livre, c'est un livre qui s'appelle « Mon passé esquimau » de George Cooper Siman et qui est le récit d'un Inuit. Alors, il fait ce récit au moment où lui vient d'être converti au christianisme, mais justement, il raconte tout ce qu'a été sa vie avant le christianisme. Donc, il raconte une vie d'orphelin, de petit garçon plutôt défavorisé dans le groupe dans lequel il était. Et les esprits interviennent très vite. Et la façon dont c'est raconté ne permet absolument pas de mettre en doute l'existence de ces esprits. Et puis après, il y a le travail. Moi, c'est vrai que je travaille quasiment autant avec les paysages qu'avec les personnages. Et en fait, si on essaye de s'imaginer, de s'immerger mentalement dans ce que peut être la banquise, l'Arctique ou même la toundra en été, on peut pas faire l'économie de la présence des esprits. C'est-à-dire que c'est pas fou du tout de dire que le vent et l'eau vous parlent quand vous êtes sur ces... Je vous parle de ça comme si j'y
suis allée. Et quand vous êtes seule.
Mais
quand vous êtes seule depuis si longtemps.
Exactement.
Hein,
parce que et voilà. Et c'est ça. C'est non, et par contre, ça, c'est une donnée tout à fait exacte. Même encore aujourd'hui, sur la côte, certains endroits de la côte du Groenland, par exemple, le premier groupe humain est à 400 km. Ouais. Donc vous êtes isolé.
Donc il faut repeupler cette solitude et les esprits servent aussi à ça.
Oui.
On va continuer avec vous, Bérangère Condu de Pierre Edos au Tripode, et avec vous, Léonora Miano, Rouge, impératrice chez Grasset. On commence d'ailleurs avec vous, Léonora. On écoute votre choix musical, vous avez choisi Saw Me When Rivers Cry.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Crushing plastic, moving windows, tossing bottles dry. I can't get past it, waste and dust still choking road and sky. The trees remember days of plenty before rivers cried. Now they cry, oh, they cry, oh. Temperatures rising, no one stopping just to wonder why. Old men recall the kindness of the sun before the rivers cried.
Quelle voix, Saw Me When Rivers Cry, c'est le choix musical de Léonora Miano qui publie Rouge, impératrice chez Grasset. On est là pour une heure avec Bérangère Condu qui publie elle De Pierre et d'Os aux éditions du Tripode. Pourquoi ce choix musical en dehors de sa beauté?
D'abord pour sa beauté, bien sûr, j'aime beaucoup cette chanteuse et cet album en particulier. Et c'est un petit hommage à mon grand fleuve, le Lualaba, qui est évoqué souvent dans le roman, qui est le fleuve Congo. C'est une chanson qui chantent les grands fleuves du continent africain.
Magnifique. Léonora Miano, donc Rouge impératrice chez Grasset, vaste et somptueux roman, vous nous transportez dans une Afrique du futur prospère et unifiée qui s'appelle Katiopa. On est en 2124. Elle est dirigée par le chef d'État Ilunga. C'est un continent qui a ses sinistrés. Alors, les sinistrés sont une minorité de Fulasi, c'est-à-dire des Français, qui sont venus en Afrique trouver une vie meilleure et qui sont en train de devenir une communauté en faillite, repliée sur ses traditions et qui pose problème à Katiopa. Ilunga se promène en ville, incognito, pour tenter de savoir ce que pense son peuple. Et il voit, il aperçoit une femme superbe. Une femme rouge au port de Rennes. Et ce choc amoureux va servir de porte d'entrée pour le lecteur dans un roman aussi sensuel que politique, car cette histoire d'amour entre l'homme d'État et l'universitaire, puisque Boya, son nom est universitaire, dont la peau tire sur le rouge, un peu magicienne, très sensuelle, ce choc amoureux finalement est le véhicule qui va emmener le lecteur dans un voyage à travers Katiopa, qu'on va découvrir sous toutes les coutures, si je puis dire, et qui nous permet de poser un certain nombre de questions qui nous agitent aujourd'hui, même si on est dans le futur. Migration, culture, écologie, place de la femme, révolution, capitalisme. Mais à travers, ça qui est bien, un monde qui n'est pas le nôtre, et même un peu l'envers du nôtre. Alors moi je suis curieux de savoir, Léonora Miano, quelle est l'image, quelle est la question, quelle est l'envie qui a présidé à la construction de ce monde romanesque qui nous permet de regarder le nôtre, parce que il y a quand même beaucoup d'humour aussi, ou du moins d'ironie.
Oui, je suis un peu espiègle.
Katiopa, tu l'aimes ou tu la quittes. Je pense que vous avez dû prendre beaucoup de plaisir à l'écrire, cette phrase.
Je n'ai pas pu résister. Voilà.
C'est quoi le l'image? Vous avez parlé tout à l'heure d'histoire d'amour, mais justement, on parlait de paysage avec Bérangère Courtin. Quel était le paysage mental pour ce... On se projette, généralement.
À partir du moment où il a fallu donc situer cette histoire d'amour dans un environnement, pour moi, inconnu, il faut créer l'environnement. Et donc, il vient avec toutes les questions qu'il pose. Et moi, j'aime assez l'idée de l'inachèvement du monde. J'aime bien l'idée qu'en fait, le monde que nous connaissons aujourd'hui n'est pas donné comme ça pour toujours. On peut encore décider des choses, on peut encore décider des mélanges entre êtres humains, on peut encore renommer les espaces, peut-être même qu'on sera obligé de le faire parce que par exemple, des îles vont disparaître dans le Pacifique, où vont aller les gens?
Donc décider de renommer, décider de resculpter, en tant que décider romancier ou en tant que que chef d'État,
proposer à ceux qui font ça parce que c'est leur job des romans pour s'inspirer. D'ailleurs, c'est ce que dit un peu la citation de Morrison qui ouvre le livre.
C'est qu'il faut la lire. Vous pouvez la lire, Léonora Miano.
As you enter positions of trust and power, dream a little before you think. Alors, comment traduire ça? C'est donc au moment où vous endosser des fonctions donc de pouvoir et de responsabilité. Trust ici, c'est confiance, mais aussi de responsabilité, parce que ça vous demande la confiance des gens que vous dirigez. Dream a little before you think. Rêvez un peu avant de penser. Et donc pour moi, Rouge Impératrice, c'est ça. C'est le rêve qu'il faut faire avant d'agir, parce que le monde qu'on projette autour de soi, il faut d'abord le construire par l'imaginaire, il faut d'abord le rêver pour pouvoir le créer. Et donc, ça s'applique à l'Afrique du futur, mais aussi à l'Europe du futur.
À Pongo.
À Pongo. Il faut rêver Pongo, le Pongo de demain, pour pouvoir le créer un jour.
Et le rôle des romanciers est crucial là-dedans. Cet art qu'on dit parfois dépassé par l'image, on voit à vous lire qu'il convoque énormément, c'est votre cas aussi, Bérangère Cournu, qui convoque énormément d'images qui sont autant de supports. Alors, ce sont des images qui passent par des mots. Mais autant de supports à mettre d'autres mots à nouveau.
Oui, absolument. Ouais. Enfin, je sais pas si le rôle des romanciers est crucial, mais il est pas mineur. En tout cas, j'appartiens à cette civilisation où on lit, où on lit des livres et où ça nous construit. Et donc oui, je crois à ça. Je ne sais pas donc si les grands de ce monde nous liront, mais enfin, je pense que ça pourrait ne pas leur être inutile de le faire.
Quand vous disiez renommer le monde, il est en état d'inachèvement. Et ça, c'était presque, j'avais presque l'impression d'entendre presque un rêve d'être une sorte de dieu, de petit dieu humain qui
mais de prendre toute notre place d'humain.
Ouais.
Après tout, si l'Amérique s'appelle Amérique, c'est parce que des gens l'ont décidé. Hein. Mmh. Elle s'est pas appelée comme ça tout seul.
Et Katiopa vient d'où alors ce nom?
Il vient de l'espace Congo, c'est-à-dire une partie du Congo actuel et aussi de l'Angola. Et où notre continent s'est appelé comme ça.
Katiopa. Et on sait, il y a une étymologie, on sait ce que ça veut dire.
Terre du soleil ou des enfants du soleil, quelque chose comme ça.
On va vous entendre lire Leonora Miano, en fait, pour mieux entrer dans Katiopa. Tout simplement, voilà, j'ai choisi la première page, en fait.
Debout à quelques mètres de la place Mantatisi, l'homme n'avait Dieu que pour la femme, celle qui se tenait au centre, tel un soleil couchant ayant déposé son rougeoiement sur la verrière. La veille, lors d'une de ces sorties officieuses dont il ne pouvait se passer, la marche du Mukonzi l'avait mené à cette place. Il y en avait un peu partout à travers Mbanza, en dehors de certains quartiers résidentiels. Leur concepteur avait observé les habitudes populaires dans cette partie du continent, une propension à délaisser les espaces prévus aux fins de réunions ou de flâneries. Dans les métropoles d'autrefois, seuls quelques fantaisistes prenaient plaisir à arpenter les nzela nets des parcs et jardins publics. Les autres, plus nombreux, s'attroupaient de préférence sur le côté, le long des murs, au bord des trottoirs. Cette façon de regarder les choses depuis la marge, de rendre cette dernière centrale en s'y regroupant, n'avait pas changé avec les décennies. Aussi, l'urbaniste avait-il eu l'idée de végétaliser des pans de murs, de fixer au-dessus des verrières de forme convexe. Par temps de pluie, une trentaine de personnes pouvaient s'abriter dessous. Quand il faisait beau, les places accueillaient toutes sortes de rassemblements. On y venait aussi en passant, pour le plaisir de voir les autres, d'être en leur compagnie. Ilunga aimait à se tenir aux abords de ces lieux, sur les branches basses de l'un des arbres bordant la chaussée. L'homme pouvait ainsi entendre parler les gens, ne pas attendre les rapports de la sécurité intérieure ou des Mikalaï sur l'état de l'opinion. Il en profitait aussi pour se rendre compte par lui-même de la qualité des relations sociales, observant en particulier le comportement des agents de l'administration. L'avènement du Katiopa unifié était récent. Il importait que la population n'ait à formuler que des reproches mineurs. Pour cela, les fonctionnaires, quels que soient leurs grades et attributions, devaient faire preuve de souplesse, de patience. Il s'agissait d'accompagner la mise en place de nouvelles règles. Plus que des codes à respecter dorénavant, elles participaient d'une vision de soi plus saine. Comme tous les membres de l'Alliance qui avaient pris le pouvoir 4 années plus tôt, Ilunga était déterminé à réussir là où la fédération précédant le Katiopa unifié avait échoué. Elle avait en partie aboli les frontières héritées de l'ère coloniale, ce qui était depuis l'époque de la toute première Chimurenga, l'une des aspirations les mieux partagées par les combattants pour la souveraineté du continent. La fédération avait cependant failli, n'ayant pas assez travaillé à obtenir l'adhésion des masses à cette partie crucial du projet de libération.
Merci Leonora Miano, c'est la première page de Rouge Impératrice et à vous entendre lire, on perçoit ces mots justement africains, enfin je vais dire un mot africain pour simplifier.
Sont africains, on peut le dire.
De plusieurs langues, voilà. Mais qui viennent introduire un petit frottement, le mot frottement. D'ailleurs,
absolument.
Est très important dans Rouge Impératrice.
Qui viennent introduire un petit frottement, qui viennent aussi, pour moi, affirmer une esthétique particulière pour ce livre. J'aime bien faire ça pour chacun de mes livres, sinon je m'ennuie beaucoup.
Donc un métissage, ça serait ça?
Oui.
Des mots français et des mots
absolument,
du continent africain.
Et des mots qui, pour moi, peuvent s'inscrire, en tout cas, dans une narration romanesque, de façon logique parler de l'environnement qui nous accueille dans ce livre.
Alors je me suis régalé moi avec les vêtements, la façon de vous décrivez les vêtements avec en utilisant justement les mots africains.
Alors, oui, la manière dont on les appelle dans la langue des gens, parce que tous ces vêtements en fait nous sont connus, on connaît tout ça.
Ah ouais, non, c'est magnifique. Est-ce que imaginer le futur de l'Afrique, l'imaginer prospère, c'est une manière de réparer quelque chose où le mot seul vous fait bondir?
Non, pourquoi pas réparer? Je pense qu'il y a des choses à réparer, mais d'abord à l'intérieur de soi-même, réparer. Peut-être que ça fait ça, que ça répare à l'intérieur de soi et que ça redonne à des gens qui se sentent un peu accablés justement par le passé, la possibilité de concevoir pour eux-mêmes un avenir qui ne soit pas donc cet avenir d'avance accablé par le passé. Mais ce sera un avenir où on est responsable de tout et il faut bien s'en apercevoir aussi.
Je parlais du frottement tout à l'heure, je vais citer la phrase qui est très belle. Boya, donc c'est ce personnage de femme qui est aperçu par Ilunga au début et qui va vivre avec lui une grande histoire amoureuse parce que c'est d'abord ça. Elle est professeure à l'université et elle étudie les sinistrés, cette communauté de blancs descendants de colons et revenus donc à Katiopa, en Afrique, et que le pouvoir voudrait expulser de peur qu'elle mine l'unité en fait de cette fédération africaine
qui est en train de se construire sur le plan identitaire notamment.
Voilà. Et Boya, elle pense que c'est une erreur, que Katiopa doit au contraire inclure et intégrer tous ces peuples, même les descendants des colonisateurs.
Mais oui, ils sont nés là.
C'est ça. Et elle convainc Ilunga, qui finira par dire publiquement, il me semble, c'est très beau, il me semble que le problème est là. Dans notre capacité à accepter que ce fameux nous-mêmes à défendre et à élever se soit formé dans le contact avec les agresseurs d'hier, dans le long frottement des peaux et des cultures. C'est une parole extrêmement apaisée, en fait, que lance au personnage.
C'est la vérité.
Mais c'est même étonnant. Vous avez l'air beaucoup plus apaisé aussi que par le passé.
J'ai 46 ans.
Voilà.
Mais ça, je l'ai toujours pensé.
Vous êtes moins en colère.
Je l'ai toujours pensé. Ouais. Je suis moins sur la défensive. Parce que j'étais sur la défensive parce qu'il fallait toujours que je me justifie de ce que j'écrivais. Et comme on trouvait que mes livres nuisaient à l'image de l'Afrique, comme si c'était une histoire d'image. Comme si je devais écrire le guide du routard. Et non pas des romans.
À l'image de l'Afrique, pourquoi? Qu'est-ce qui nuisait à
l'image? On trouvait que cette violence qu'il y avait dans mes romans était nuisible pour l'image de l'Afrique. Et c'était pas du tout la violence de l'Afrique, c'était la violence de la jeune femme qui écrivait.
Ouais.
J'aurais tout à fait pu travailler sur absolument les mêmes thématiques autrement. Mais j'étais une jeune femme qui était habitée par sa propre rage et qui n'était pas sans raison. Et aujourd'hui, je ne suis plus cette jeune femme.
Qu'est-ce qui vous... À part l'âge...
J'ai 46
balais. À part l'âge, qu'est-ce qui vous a changé? Qu'est-ce qui a fait taire la rage?
Non, c'est la maturité. C'est-à-dire que... Est-ce que je peux vraiment tout dire? Est-ce que je peux dire d'où venait cette rage et ce qui s'est apaisé? J'ai commencé à écrire toute petite fille parce que j'avais besoin de parler de choses qui, dans mon environnement familial, cette famille africaine un peu bourgeoise, n'était pas dissible. J'ai connu très tôt des agressions sexuelles et je savais que je ne pouvais pas dire. On pouvait parler de tout chez moi, tant que c'était la culture, la philosophie, l'art, la musique, mais on ne parlait pas de son intimité. Donc il y avait un interdit pour moi là-dessus, qui a fait de moi quelqu'un qui avait vraiment besoin de briser les silences à ce niveau-là, et même peut-être un peu de transgresser les tabous de la communauté, comme on transgresse les tabous de la famille, un peu.
Par l'écriture.
Par l'écriture. Ouais. Et donc j'ai fait ça parce que j'avais des cris dans la poitrine, des cris à pousser. Et donc ma manière de traiter des sujets que je choisissais, même si c'était pas forcément des sujets qui m'étaient personnels, me permettait de pousser ces cris.
Donc c'était pas lié à l'Afrique forcément.
Non,
c'était lié à la vie de femme en fait.
Mais je pense que l'écriture du romancier est toujours autobiographique en fait dans sa manière d'écrire, même si le sujet ne l'est pas. Et qu'il faut jamais oublier quand on prend un texte qu'il émane d'un individu. Je ne peux pas parler pour l'Afrique. Je ne peux pas parler pour.
Non, on ne demande pas ça d'ailleurs. Bien sûr.
Mais si des Africains me le demandent.
Voilà. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette Afrique restituée? Katiopa, ce continent africain unifié, est restitué à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ce que ça veut dire surtout, et c'est vrai qu'il faut le dire pour qu'on ne se méprenne pas, ce que ça veut dire surtout, c'est restituer à la pleine responsabilité de ces populations à le faire advenir, à matérialiser, à donner une matérialité à leurs aspirations.
Mais restituer à lui-même, ça veut dire restituer à ce qu'il était.
On
ou
peut
est-ce
pas,
qu'il n'est
non.
pas encore
on peut
quand
pas
on
dire...
restitue, on redonne.
Oui, mais pour moi, c'est plus ici de reprendre le pouvoir. Hein, parce que restituer à ce qu'on a été, ça me semblerait un peu hasardeux comme entreprise. Puisque ce qu'on a été, on ne le maîtrise pas tout à fait, et que surtout, on ne peut pas faire l'économie des mutations de l'histoire. J'imagine pas du tout que les Africains, hein, pour revenir à ce qu'ils furent, aient le désir de ne plus rouler en voiture et de ne plus prendre de douche. Hein, je n'imagine pas, et personne ne l'imagine. Donc, gardons raison là-dessus. C'est surtout reprendre la pleine responsabilité de sa destinée et se tenir devant ce qui est pour moi le vrai défi, l'invention de soi, puisque justement on ne pourra pas revenir à des âges d'or ancestraux qu'on n'a pas connus.
Oui.
Et je trouve ça excitant, l'invention de soi.
Ah, c'est très excitant.
Ah oui, avoir un monde à faire, c'est passionnant.
Et d'ailleurs, d'invention de soi, vous parliez de pouvoir aussi, ce qui est commun à vos deux livres, Bérangère Cournu et Léonore Amiano, c'est aussi la place que vous redonnez, que vous restituez peut-être à la femme. C'est un livre extrêmement sensuel.
Ah oui.
Il y a des pages brûlantes d'érotisme.
J'espère, j'espère.
Mais il y a surtout aussi, au-delà de l'érotisme, dans ces rituels que vous décrivez, ces rituels de femmes, avec cette phrase, le monde émerge des ténèbres quand s'ouvre le sexe de la femme. Il y avait aussi, et on parlait de Toni Morrison tout à l'heure, que vous avez étudié hein, aussi
oui, absolument.
En profondeur. Il y avait ce livre, il est aussi parti d'une envie de dire la puissance des femmes. Et c'est aussi une question que je poserais à Bérangère Cournu, du vécu féminin.
En tout cas, c'est quelque
rouge,
chose qui
l'impératrice,
me...
telle sur le titre.
Oui,
rouge,
absolument.
Impératrice.
Le vécu féminin me passionne et les pratiques spirituelles des femmes africaines m'intéressent beaucoup. Ce qu'on faisait dans les sociétés de femmes. Mais on voit dans le roman qu'on le fait toujours, mais qu'on l'a adapté à notre contexte. Il ne s'agit pas non plus de retourner dans la caverne, forcément. On peut avoir une petite maison des femmes où on fait ces choses. Mais l'esprit reste le même. Et puis surtout, j'ai voulu, voilà, de ces pratiques-là, faire connaître les belles. Ce rituel du touba, touba qui veut donc dire en douala percé, qui est un rituel de défloration où donc l'hymen de la jeune fille est offert non pas à son premier amant,
voilà.
mais aux femmes de la communauté, aux femmes plus âgées.
Elles se réapproprient
voilà.
aussi. Ouais.
Et de dire que le corps des femmes leur appartient d'abord à elles.
Et c'est un rituel qui a toujours...
Qui existe. Et j'ai trouvé ça avec... Ce continent, quand on en parle, on ne parle que d'excision, par exemple. Ben non, il y a des peuples qui faisaient plutôt ça que l'excision, vous voyez. Donc l'Afrique est complexe, elle est diverse, et il y a de très très belles choses qui peuvent inspirer les femmes du monde.
Ouais.
Prenez l'hymen des jeunes filles.
Avant que l'homme ne le
Avant
prenne,
que
c'est ça.
Ouais.
Bérangère Cournu, il y a cette volonté aussi dans votre livre de Pierre Edos de remettre aussi, c'est une héroïne de femme. Quand commence le livre, on est aussi dans l'organique de la femme. Il est question de donner naissance, de donner la vie, en plus dans un environnement hostile, même si tout à l'heure on a dit que les Inuits ne pensent pas qu'ils vivent dans un environnement hostile
ou
extrême.
C'est celui qu'ils connaissent.
Voilà, exactement. Mais il y avait cette volonté de restaurer aussi, de donner une parole de femme, un rôle de femme.
Oui, forcément. Enfin, disons que au fur et à mesure que j'écris le livre, je m'aperçois quand même que le rôle de la femme est premier. Mais c'est aussi parce qu'on n'écrit pas de nulle part et que, étant moi-même une femme, en fait, c'est vrai que c'est cette expérience-là dont je peux parler. Alors déjà que je m'éloigne beaucoup de moi-même en allant chez les Inuits. Si je veux pas écrire complètement hors sol, je veux bien écrire hors temps, mais pas hors sol. Il faut bien que je parle à partir du corps et du parcours d'une femme. Voilà, même si c'est pas fait, de façon ouvertement militante, c'est pire que ça, j'allais dire, c'est fait sous forme d'évidence.
Mmh. Oui, mais c'est puissant pour ça. Mmh. Et jamais on se demande si une femme peut faire toutes ces choses.
Oui. Mmh. Et puis, il y a aussi le fait que quand, ben, moi, par exemple, dans mon travail de documentation, c'est vrai que je vais prendre des notes beaucoup sur les activités des hommes. Celles des femmes, c'est vrai que je vais avoir tendance peut-être à les prendre systématiquement en note parce qu'elles sont souvent moins connues. Mmh. Elles sont pas moins importantes, elles sont juste moins connues. Et donc, ben, c'est aussi notre, ben, moi, par exemple, pour me projeter dans un personnage de femme, j'ai besoin de prendre, je savais, même si je ne savais pas bien comment chasser le phoque, je savais mieux comment on chassait le phoque que la façon dont on concevait les vêtements, dont on mâchait les peaux, dont on découpait la viande, autant de choses que font les femmes et qui a un rôle
tout aussi vital. Et qui est beaucoup plus documenté, en fait.
Mais oui, bien sûr, bien sûr. Alors, disons, ou peut-être plus connu, parce qu'en fait, documenté, si, ça l'est forcément, puisque si un ethnologue fait son travail correctement, il décrit toutes les étapes de la survie. Mais c'est toujours celles qui paraissent plus héroïques et qui paraissent... Or, par exemple, enfin, j'aime bien donner cet exemple-là, mais un bon chasseur, c'est celui qui va viser adroitement, qui va reconnaître les animaux. N'empêche que si ses vêtements sont pas bien cousus, pas bien étanches, etc., il mourra de froid, noyé dans l'eau glacée.
On parle de Pierre Hédos, on continue à en parler. On écoute votre choix musical, c'est la chanson Arnaque de l'artiste inuit Elisapi Isaac.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Elisapi Isaac, c'est la chanson Arnaque, c'est une artiste inuite et c'est le choix de Bérangère Cournu qui publie De Pierre et d'Os aux éditions du Tripode. On passe une heure ensemble avec Léonora Miano, Rouge Impératrice chez Grasset. Pourquoi ce choix musical, en dehors du fait que ce soit une artiste inuite?
C'est une artiste inuite, et puis cette chanson donc s'appelle Arnaque. Arnaque en Inuktitut, qui est la langue des Inuits, signifie femme. Et c'est une chanson qui est écrite en hommage aux femmes autochtones, inuites mais pas seulement, qui disparaissent sur le continent canadien depuis longtemps, suite à des viols, des homicides, des affaires non élucidées. Et donc c'est des choses dont on commence heureusement à parler. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans cette chanson, c'est que justement elle englobe la force des hommes. Et on sent, il y a aussi des voix, plusieurs voix, et pas seulement celle d'Elisapi. Parce que justement, je ne sais plus comment elle le dit, mais Elisapé dit qu'en gros, l'homme fait aussi partie de la défense de la cause des femmes.
Voilà.
Et en gros, elle lui dit, tu es le fils, tu es l'homme, tu es le frère, tu es le père. Et ton rôle consiste... Enfin, c'est ensemble qu'on arrivera
à... Ça vous plaît, ça, Léonora Miano?
Absolument.
Voilà, une totalité.
Absolument. Hein, mais j'ai beaucoup aimé le roman de Bérangère. Je ne l'ai pas terminé encore, mais je ne lis pas vite quand j'aime.
C'est bien, oui, pour pas que ça se termine.
Et quelquefois, je relis même des pages que j'ai déjà que je viens de lire, mais il est très très beau. L'écriture est très maîtrisée, la langue est magnifique. Elle est lumineuse, cette langue. On se voit vraiment lumineuse et très charnelle. Donc c'est un très 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 beau livre.
Alors j'en reviens un mot. J'en dis un mot de Pierre et d'Os, donc au Tripode. Donc c'est l'histoire de Ouxouralik, qui veut dire donc Hermine ou ours blanc. C'est une Inuite qui est séparée de sa famille dès les premières pages, c'est-à-dire que la banquise se fracture. Et donc elle va devoir apprendre à survivre seule avec quelques chiens qui lui restent, aller à la rencontre d'autres hommes, d'autres animaux, d'autres esprits. Et on suit son itinéraire avec elle, son parcours. On apprend énormément de choses, les techniques de chasse, car il faut bien se nourrir, la fréquentation des esprits, on en a parlé, et la présence du corps féminin aussi. Et c'est vrai que dans une langue réduite, très très simple et forte, vous arrivez à nous faire ressentir en fait toutes les sensations qu'on pense devoir ressentir si on était projeté sur la banquise. Et je disais tout à l'heure le parfum de l'huile de phoque qui brûle dans les lampes, la texture des tissus, comme chez vous, Léonora Miano, sur ces tissus africains, ces bijoux. C'est vraiment extrêmement sensuel aussi. Et en fait, ce qui est très curieux, c'est que vous n'y êtes pas allé. Et ça, c'est évidemment ma première question, Bérangère Cournu. Pourquoi ce livre donc a été écrit après une résidence au Muséum d'Histoire Naturelle, où vous avez eu accès à des archives et énormément de textes d'ethnologues sur les Inuits. Pourquoi finalement quand même avoir dit j'y vais pas, je vais pas voir pour avoir même une petite idée de par ses propres yeux, ses propres pores.
Pour plusieurs raisons. La première, en fait, j'ai décidé assez vite de ne pas y aller parce que après le précédent roman, On est contente à Oraibi, qui se passe donc chez les Hopis, qui sont une tribu d'Arizona. Même si moi-même, j'ai passé beaucoup de temps au Nouveau-Mexique, enfin plusieurs mois, pas non plus des années, et que j'ai eu des sensations de paysage, etc. Je suis allée un tout petit peu sur le territoire Hopi. Et quand le livre est sorti, j'avais d'un seul coup la caution de la personne qui était allée sur place, qui avait rencontré les Hopis. Or, je suis allée sur place, j'ai rencontré quelques Hopis. Mais comme j'étais pétrifiée par l'idée de les déranger en quoi que ce soit, je n'osais poser aucune question et j'étais dans une extrême réserve. Donc, c'est pas cette rencontre à proprement parler qui a porté le roman. Donc, la naissance des deux romans est quasiment concomitante. Enfin, je veux dire que très, très vite, j'ai découvert les deux cultures en même temps. Très vite, j'ai su qu'il y aurait aussi un roman inuit. Et très vite aussi, je me suis dit, je n'irai pas dans l'Arctique parce que ma vie ne me permettait pas d'y passer plusieurs mois, encore moins plusieurs années. Donc, de façon un peu...
Donc, plutôt rien.
Plutôt rien.
Que un peu.
Que pas du tout. Ouais. De façon un peu rapide,
Et la question, alors justement, la question de la légitimité qui peut se poser, après tout, on parle beaucoup aujourd'hui d'appropriation culturelle, c'est-à-dire le fait de parler d'une culture qui n'est pas la sienne et qui serait mal. Elle a été posée, cette question.
Je me la suis posée chaque matin depuis que je suis, j'allais dire, tombée dans ces cultures-là. C'est-à-dire qu'avant, moi, j'écrivais des livres qui étaient complètement ancrés dans l'imaginaire, dans un onirisme qui me laissait entièrement libre sur mes choix. Mais en revanche, à partir du moment où je parlais depuis des cultures un peu éloignées, menacées à certains égards, et qu'en plus j'ai commencé à le faire après un séjour aux États-Unis, que j'ai aussi beaucoup quelques amis canadiens, québécois, qui m'ont assez vite sensibilisée à cette question, je me la suis posée, et je trouve que cette question est extrêmement importante, extrêmement légitime. En même temps, il faut la sous-pesée avec celle de la liberté de l'écrivain, et que, eh bien voilà, il y a une part de la question qui est politique et l'autre qui est artistique. Et c'est vrai que moi, alors c'est peut-être que c'est facile de le dire depuis l'Europe.
Toute la question, en fait, est politique. Et je pense que vraiment, c'est la partie qu'il ne faut pas oublier. Moi, je ne me suis pas posé la question de la légitimité en vous lisant. Je suis rentrée, comme Alice passe le miroir et entre dans un autre monde, c'est comme ça que je suis entrée dans votre roman, comme dans tout roman.
Et elle est grave, cette question, Léonora Miano, de l'appropriation culturelle. On devrait écrire que sur les choses qu'on est, en fait.
Mais on peut pas faire ça. Moi-même, j'ai pas fait que ça.
Non.
Je pense que vraiment, c'est une question qui se pose en particulier dans les espaces de représentation où des corps sont montrés. C'est plus là, hein, on voit que la question se pose. Et pas tellement parce que les gens veulent dire que un blanc ne peut pas comprendre, comprendre le destin d'un esclave et donc le jouer en tant qu'humain, bien sûr, il le comprend. Je pense que les personnes qui posent cette question-là veulent dire que tout le monde n'a pas eu suffisamment accès à la parole. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'ils disent. Qu'ils peuvent pas dire qu'un autre humain ne peut pas les comprendre. Mmh. Ça, ils peuvent pas le dire. Mmh. C'est faux. De toute façon, on connaît tous cette citation, hein. Rien d'humain ne m'est étranger. Mmh. Et c'est ça, profondément, je pense, qui habite les créateurs.
Mmh. Et il faut garder ça. Ouais.
Mais il faut le garder. Mmh. Il faut garder aussi le fait que l'imagination soit une méthode pour connaître le réel. Mmh. Moi, je crois à ça. Mmh.
Et en ce qui concerne, c'est tout à fait la démarche, puisque dans le roman précédent, il était question, d'une orpheline, ce que moi-même je suis, et ça ne m'intéressait pas du tout de parler de mon expérience personnelle.
Oui,
et le fait de me transporter, mon personnage, mon travail dans une autre culture, c'est vrai que j'ai raisonné quasiment en termes d'équation. Je me disais, si mon expérience d'orpheline rencontre celle, l'expérience d'une orpheline Hopi, sans doute qu'on aura peut-être touché un petit bout de l'essence de cette expérience.
Mais c'était important.
Ouais. Et puis, pour le livre Inuit, il se passe la même chose. Et c'est vrai que c'est une réflexion que je mène très souvent, et j'oscille entre le fait d'être parfaitement à l'aise avec cette question et d'autres matins où c'est plus difficile. Et je pense que c'est vrai qu'en fait, moi, mon vœu le plus cher, c'est de pouvoir justement, pas avoir ce dialogue, j'espère éviter toute confrontation avec une forme de bien-pensance qui est un peu stérile, et au contraire, arriver à nouer un dialogue avec des ou des lecteurs inuits un jour, justement pour...
Mais il va être traduit, il va être...
Je ne sais pas. En tout cas, par exemple...
En Inuktitut, c'est ça.
En Inuktitut. Ouais. Mais l'artiste qu'on a écouté, Elie Sapie, parle français, elle est francophone, puisqu'elle est en lien avec le Québec. Il peut être lu, en tout cas dans l'article canadien, il y a des Inuits qui parlent français et qui le lisent.
Et là, on aura un frottement, comme vous dites,
et puis surtout, je pense que les personnes, en lisant le roman de Bérangère, ne se sentiront pas mal considérées. Parce que ces questions-là affleurent aussi quand les gens ont ce sentiment de ne pas avoir été respectés.
Sur ces mots, on va vous écouter, Bérangère Cournu, pour se rendre compte aussi de cette langue dont parlait, c'est bien d'ailleurs, Léonora Miano, c'est vrai, cette langue, je disais, à l'os, surtout de la chasse aux phoques. On vous écoute, Bérangère Cournu.
Juste un mot sur cette langue, justement, j'étais dans un festival où un auteur, Patrick Corillon, je crois, a parlé de Maeterlinck. Alors, je n'ai pas la citation exacte, mais Maeterlinck aurait dit qu'il voulait utiliser les mots qui étaient le moins porteurs de sens possible, de façon à ce que le cosmos puisse passer au travers. Et alors, j'aurais jamais eu l'idée de le formuler comme ça, mais je crois qu'en tout cas, pour parler des Inuits et de cette culture qui est pour le moins au grand air et en lien avec, avec toutes les forces naturelles, ça me paraissait le chemin indiqué. Soudain, une masse sombre jaillit près d'un bloc de glace. Nous pagayons dans sa direction, saisissons le flotteur à plein bras, mais il résiste. Le phoque est là, au bout de la courroie. Mais dans sa fuite, il s'est enfoncé sous la banquise. Son corps inerte est probablement coincé dans une poche d'air sous le couvercle de glace. En y mettant toute notre force, nous parvenons quand même à le tirer jusqu'à nous. Maintenant que l'animal est contre le bord de mon kayak, Touloukarak me laisse faire. Je saisis le phoque par les nageoires et, avec mon couteau, j'entaille sa peau au niveau du crâne. Après avoir décollé la graisse dans plusieurs directions, je me penche sur la plaie et je souffle vigoureusement à l'intérieur. Le phoque, ainsi gonflé, sera plus facile à tirer. Nous pouvons rentrer. Touloukarak passe à nouveau une courroie à l'avant de mon kayak et nous remorque, le phoque et moi, jusqu'au rivage. La première chose que nous faisons en hissant le phoque sur la terre ferme est de lui donner à boire, pour le remercier de s'être laissé prendre et pour encourager son esprit à se redonner une prochaine fois. Ensuite, nous le remontons jusqu'au camp où les femmes le dépècent, le découpent et procèdent au partage. Parce que nous l'avons chassé ensemble, Touloukarak et moi recevons chacun deux côtes ainsi que la peau. Les autres se répartissent le reste.
Merci Bérangère Cournu. de pierre et d'os. C'est aux éditions du Tripode. Merci beaucoup, Léonora Miano, Rouge Impératrice chez Grasset. Bérangère Cournu, de pierre et d'os au Tripode. Merci beaucoup de votre présence. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Jean-Michel Bernaud à la technique avec la collaboration d'Alexis Kaiser. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pour écouter à l'infini ou presque cette émission sur franceculture.fr avec Bérangère Cournu et Léonora Miano.